c'est que l'Esprit Saint, l'amour subsistant du Père et du Fils, repose hypostatiquement, avec ce gros mot que nous avons employé hier, personnellement, sur l'Église du Christ et donc sur chacun de nous, pourvu que nous demeurions dans la koinonia ecclésiale, dans la communion ecclésiale. Voilà ce que nous disions hier soir. Puisque l'Esprit est l'acte d'amour dans lequel le Père engendre éternellement son Fils unique, dire que l'Esprit repose sur nous signifie que le Père engendre en nous son Fils, son Verbe éternel, et que devenons donc tous ensemble le corps total du Christ, dont Jésus glorifié est la tête. L'effet le plus immédiat de la présence de l'Esprit Saint, nous terminions là-dessus hier soir, c'est qu'il nous introduit, qu'il nous donne part à l'acte d'amour qui unit le Père et le Fils. Il rend l'amour possible. Il faudrait dire qu'il rend la charité possible, car ce mot amour est tellement galvaudé en français, nous n'avons pas les nuances du grec, où il y a quatre mots différents pour dire l'amour. Ici, nous pensons ici à l'amour agapé, qui est l'amour proprement qui vient de Dieu. C'est pourquoi le critère principal de discernement de ce que la théologie appelle l'état de grâce, c'est la charité concrète dont nous faisons preuve au cœur de notre vie. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour en nous est accompli. Première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 12. Et encore, ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, que ma vie, la vie de l'Esprit est en vous, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Jean 13, 35. Mais bien sûr, cet amour proprement chrétien, c'est-à-dire qui consiste à donner sa vie, livrer sa vie librement par amour pour ses frères. Les différents dons de l'Esprit représentent différentes formes de participation à l'acte d'amour divin. Les dons de l'Esprit sont l'action de l'Esprit présent personnellement en nous, qui agit en nous et à travers nous, eu égard en vertu de sa présence. Mais si l'Esprit est essentiellement l'Esprit d'amour, alors les actions, les dons qu'il nous fait en vue des actions charismatiques, ces actions sont participation à l'amour divin. C'est des manières d'aimer davantage. Et ce sont donc des actes qui sont au service de cette édification du corps dans la koinonia, dans l'amour. Le critère de discernement de l'exercice des charismes est donc double. D'abord, c'est qu'un authentique charisme procède toujours de l'amour dont le Père nous a aimés en son Fils Jésus-Christ. Et qu'il conduit, deuxièmement, il conduit nécessairement à la croissance de la charité, de la koinonia. Tel est le cœur de l'enseignement que saint Paul propose à l'Église de Corinthe dans la première lettre qu'il lui adresse. Le fil rouge qui se dégage est le suivant. Je vous le livre ainsi, car pour traverser cette lettre aux Corinthiens, il faudra un peu plus de temps en communauté. Nous n'avons pas eu assez d'une année nous ne sommes pas arrivés en une année au terme de cette lettre, tant elle est dense et riche, et que les différentes parties se renvoient l'un à l'autre pour peu à peu faire émerger une structure. Je dirais, 1. La vie en Christ ne consiste pas dans un savoir intellectuel, chez le chapitre 1, ni dans l'abondance ou la variété des dons, chapitre 12, mais dans la qualité de l'union des croyants à Dieu et entre eux par le lien de la charité, chapitre 13. Toute l'argumentation de l'apôtre se déploie entre le rappel du langage de la croix. Nous sommes au chapitre 1, verset 18. C'est la porte d'entrée, c'est le grand porche, le langage, la logos tous torou, la parole de la croix. Folie d'amour de Dieu, folie d'amour de Dieu. Folie pour notre intelligence, précisément parce qu'elle est éblouie par l'amour de Dieu et qu'elle ne voit plus rien. Dieu qui, en consentant à la faiblesse ultime, confond la force de l'homme et qui, dans cette sagesse suprême, confond la sagesse de l'homme. Voilà le point, le porche d'entrée. Et tout ça nous...